patriarca, 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 patriarca.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste.
Butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon.
Dégenré, l'émission pour...
Déranger !
Une émission féministe...
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois...
De 18h30...
à 20h...
Sur Radio Kaleidoscope...
97FM...
1h30 de féminisme à pur.
Bonsoir.
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 Bienvenue sur Dégenré,
l'émission féministe
qui dérange grave.
Alors ce soir, nous vous proposons d'écouter des conférences de trois femmes que nous avons entendues lors d'une journée organisée par le CIP, le Centre d'information interpeuple. Alors c'était le samedi 10 novembre 2012 à la salle polyvalente des Baladins à Grenoble et cette journée s'intitulait « Solidarité avec les femmes en lutte pour leurs droits, femmes du Maghreb et femmes issues de l'immigration maghrébine, réalité, revendication et lutte ». Elle s'articulait autour de deux tables rondes, l'une sur les droits et les luttes de femmes vivant en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et la seconde sur la situation des femmes issues de l'immigration maghrébine en France. Ce soir, nous allons entendre l'enregistrement de la première partie. Alors, nous avions envie de dire quelques petites choses en introduction. Nous nous sommes questionnés sur ce terme Maghreb qui est utilisé pour présenter cette journée, ce terme qui désigne donc ces trois pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il nous semble que ce terme est d'origine coloniale, donc il nous questionne. Et d'autre part, cette forme de table ronde avec des temps imposés, ça a posé quelques difficultés. Certaines intervenantes, du coup, ne pouvaient pas vraiment finir leur exposé et leurs idées parce que voilà, il y avait ce temps imposé. Donc, ça fait un peu. Donc, bon, bah, c'est fini, on passe à la suivante.
Ouais, bah, c'est le cas d'ailleurs pour la première intervention, qui est l'intervention de Fatia Shahari, et qui est tunisienne. Et elle, vraiment, son intervention, elle se finit de manière assez abrupte. On entend, enfin, elle n'a pas le temps de finir de développer son idée. Du coup, c'est assez dommage. Alors, Fatia Shahari, elle fait partie de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle présente surtout dans son intervention cette association et leur travail, enfin le collectif puis l'association. Et c'est intercalé de musique de Emel Matlouti, qui est aussi une tunisienne chanteuse qui est de plus en plus connue, qui fait des super morceaux, notamment autour de la révolution. Alors à la fin de l'intervention de Fatia Shahari, on entend un morceau qui est une dédicace à la révolution, qui s'appelle 14 janvier 2011, et c'est monté par des petits bouts de musique un peu de son tube, qui est le tube qui s'appelle Kelmit Ora, qui veut dire « Ma parole est libre ». Bonne écoute.
De l'association en elle-même vient justement pour dire qu'il y avait d'autres droits à conquérir. Les fondatrices de cette association qui venaient donc du milieu militant de la gauche estudiantine des années 70 et de la centrale syndicale ont suivi un peu l'exemple de leurs sœurs, je dirais, dans d'autres pays européens, pour se réunir autour de revendications spécifiques aux femmes. Le travail de l'association, avant que ça ne devienne association, le mouvement s'était pendant des années réuni dans un club culturel autour de la question justement des droits des femmes. Donc fin des années 70, il a pu sortir un magazine spécialisé sur les questions des femmes et notamment la question autour de laquelle plusieurs commissions ont travaillé en lien avec les deux autres pays maghrébins était la question justement des violences et de les politiser, de les rendre visibles dans l'espace public, pas en tant que question de l'espace privé, mais des questions qui concernent les rapports de sexe dans la société. Même si, s'il est vrai que le code tunisien promulgué avant la constitution, la première constitution, en donnant quelques droits aux femmes, dont le droit à l'adoption, le divorce judiciaire est égal entre les deux parties, et donc l'interdiction de la répudiation. Les autres questions, justement, de loi et de droit juridique, l'association menait depuis l'époque de Ben Ali, une bataille pour l'égalité et dans la loi, notamment dans le cadre du code du statut personnel, parce que l'homme restait toujours le chef de famille, il n'y avait pas d'autorité parentale partagée. Femme continuait à ne pouvoir donner sa nationalité quand elle est mariée à un étranger qu'avec l'accord de cet étranger. Il y avait une circulaire qui interdisait aux officiers de la République d'inscrire le mariage d'une Tunisienne, donc considérée ipso facto comme musulmane, à un non-musulman. Et donc autour de ces batailles, l'association s'est mise très très tôt en solidarité et en lien sur des associations en Algérie et au Maroc. Ces associations qui se mettaient en partenariat, notamment sur les questions des violences entre les trois centres d'écoute des trois associations dans les trois pays, et qui ont sorti des rapports d'étape qui ont pu constituer ensemble le collectif Maghreb 95, et qui a produit aussi des rapports et des revendications qui concernaient les droits des femmes dans les trois pays. L'aspect dont on ne parle pas beaucoup quand on reprend l'expérience des luttes des femmes en Tunisie, c'est resté la question des conditions sociales des femmes. On a beau parler, quand on est à l'étranger, de l'exception des droits dont jouissaient les femmes tunisiennes, mais il est vrai en même temps que cette association n'était pas un regroupement de masse qui avait des milliers d'adhérentes et d'adhérents dans tout le pays. Mais ça, ce n'était pas uniquement un choix de l'association qui se définissait comme un groupe de pression et comme un groupe de lobbying vers des droits et vers des décisions politiques. C'était de la pression sur les décideurs mais ça reprenait ses racines dans l'expérience et dans les paroles des femmes, notamment les femmes qu'accueillait l'association dans le cadre de son centre d'écoute qui a été mis en place depuis 1993. Et l'accompagnement juridique, psychologique des femmes nous a permis de nous ouvrir sur toutes les questions transversales à la question de l'égalité entre hommes et femmes. L'arrivée des femmes dans le marché de travail était une raison suffisante de revendiquer une répartition juste des richesses dans le cadre de la famille et aussi dans leur transmission, c'est-à-dire l'application de la règle successorale qui continuait à accorder moitié aux filles par rapport aux garçons. Nous l'avons placée dans cette revendication de plus de justice dans le cadre de la famille, mais au-delà, dans le cadre de la société en général. S'il y a aujourd'hui des menaces qui sont réelles sur un retour sur les droits des femmes, ce n'est pas uniquement par l'arrivée des islamistes en tant que majorité dans le gouvernement, mais ce qui est plus important, c'est qu'il s'agit d'une constituante, donc dans l'Assemblée constituante, mais la régression a commencé à s'installer d'une manière corrélative, je dirais, à l'aggravation de la crise sociale. En fait, au niveau des lois, que ce soit dans le cadre des lois concernant les familles ou dans les autres lois régissant la vie sociale, c'est vrai que la Tunisie, notamment par rapport au Maroc, bénéficiait de codes et de législations plutôt, on va dire, avantageuses. Par exemple, il y a un code du travail qui régissait les règles du droit de travail, que ce soit dans le public et dans le privé. Sauf qu'avec l'aggravation de les crises, l'application et la concrétisation des lois ne concernaient pas que de toucher aux droits des femmes. Mais aux menaces aux droits des femmes s'ajoutait justement cette précarisation galopante, mais cette féminisation de la pauvreté qu'on ressentait, notamment par rapport à la crise de l'accord multifibre et à un secteur qui faisait travailler des dizaines et des centaines de milliers de main-d'œuvre féminine. Et en dehors de ce secteur d'activité très féminisé, le secteur de l'enseignement, le secteur de la santé, qui sont justement les secteurs employant beaucoup plus une main-d'œuvre féminine, la privatisation de ces secteurs et la difficulté d'accès à ces secteurs, notamment le secteur de la santé, a fait justement que l'inégalité de droit s'est aggravée de cette inégalité au niveau de la condition sociale des femmes. Ce qui a fait qu'on avait accompagné depuis les années 2000 des grèves récurrentes dans les secteurs employant justement une main-d'œuvre, notamment dans les grandes villes, des grèves initiées par des femmes, des sit-ins initiées par des femmes, des mouvements justement de connecter un mouvement au niveau d'un secteur employant une main-d'œuvre mixte était presque systématiquement depuis les années 2000 initié par les femmes qui ressentaient doublement, parce qu'elles étaient en même temps chef de famille et elles travaillaient en dehors et à l'intérieur des foyers. Donc l'association, comme tout le monde sous la dictature de Ben Ali, comme les autres organisations syndicales, comme les partis politiques, a été dans un blackout intégral. Ces activités étaient, comme tout le monde, une fois sur deux, annulées ou reportées, ou pour d'absence d'autorisation. Et on est arrivé à proférer des menaces contre les femmes qui venaient au centre d'écoute. Donc, ce n'est pas que les militantes de l'association qui faisaient l'objet de harcèlement, de poursuites, de toutes sortes. C'est aussi le public féminin qui venait à l'association, justement, chercher de l'aide. Pendant les années donc, de fermeture qui est devenue de plus en plus pesante sur tout le monde, l'association a cherché à se positionner sur certaines régions où le bruit courait de crise ou de petite explosion sociale. Et l'apogée était en 2008, quand dans la région de sud-ouest de la Tunisie, qui est une région minière depuis l'époque du colonialisme, et qui est parmi les régions où il y a le plus d'inégalités, c'est parmi les régions laissées pour compte, c'est où le taux de chômage par rapport au taux national officiellement déclaré, qui était autour de 13%, dans cette région, ça arrivait à 32 à 35% par rapport à la population masculine, et il était doublé quand il s'agissait des femmes, qu'il s'agit des diplômés ou des non-diplômés. Donc ce mouvement est parti en tout début de 2008. En fait, les femmes épouses et mères des travailleurs, mais notamment des chômeurs, ont initié un sit-in sur la voie publique, sur le passage des trains qui transportaient le phosphate pendant 11 jours. Et c'est la deuxième semaine que c'est devenu un mouvement social qui concernait toute la région du bassin minier. Ce mouvement a été réprimé d'une manière féroce. Il y a eu des morts. Les villes de Gafsar, Deif, Dil et Umm El Araïs étaient carrément assiégées pendant 6 mois. Il y a eu des procès qui ont concerné des centaines de gens. Il y a eu des peines de 10 ans d'emprisonnement pour les syndicalistes, pour les initiateurs, et ensuite pour les porte-parole du mouvement. Il y a eu 6 morts. C'est à travers les contacts locaux que l'association était la première à organiser la solidarité au niveau de la société civile. Le lien a été presque systématiquement fait entre cette revendication de l'égalité, de plus de liberté, de justice et d'un changement démocratique dans le pays. Comme on n'avait pas accès à Internet, c'était coupé, c'était piraté tout le temps, les comptes, on était interdite de diffuser nos communiqués et nos positionnements. Mais sur la décennie 2000, jusqu'au départ de Ben Ali, l'association était l'un des porte-drapeaux de l'association entre la question de l'égalité et des droits et de l'autonomie des femmes, qui, selon elle, et selon l'expérience qu'on a accumulée sur le terrain, n'est pas une revendication ou une demande logique si elle n'est pas associée d'un désir d'égalité, de justice et de démocratie qui concernerait la société tout entière. Et c'est dans ce sens d'ouverture et de réflexion beaucoup plus globale sur un changement social qu'on a créé une sorte d'université permanente féministe qui était en même temps une ouverture sur les jeunes, un souci de renouvellement, parce que c'est l'une des rares associations où on a les divers âges au niveau des adhérentes, où parmi les premières commissions à être mises en place était une commission club jeune, qui était une ouverture sur le milieu universitaire, sur le milieu des jeunes, sur le milieu des chômeurs. Le 9 janvier, quand on a commencé à tirer à balles réelles, en fait, ça correspondait à un week-end où il y avait une session de formation des jeunes qui s'adressait à un public mixte. Et donc ce public, ça regroupait beaucoup d'étudiants, beaucoup de chômeurs diplômés, qui étaient parmi les blogueuses et les blogueurs qui ont participé à faire connaître le premier mouvement de soulèvement dans toutes les régions. Le 9 janvier, la décision a été prise d'aller se solidariser avec les régions où il y a eu le plus d'exactions qui ont commencé bien avant le 9 et le 8 janvier au soir, sans que ça soit connu. La décision prise le 9 janvier, vu ce qui s'est passé par la suite et les difficultés de mouvement dans tout le pays et l'absence de sécurité, l'association n'a pu aller sur le terrain que le 28 janvier. Donc, entre-temps, on a pris les contacts sur place, on a organisé les endroits où on allait faire cette investigation et on était parti, on s'est dit, il doit se passer des choses terribles du côté des femmes et qui ne seront pas dites. Et si ce n'est pas nous qui irons écouter ces femmes, on ne saura plus ce qui s'est passé au bout de quelques mois. Sauf qu'arrivé sur le terrain, personne n'était encore arrivé sur place en dehors de deux missions internationales. Et comme on peut l'imaginer, on a été tout de suite pratiquement prise d'assaut par toute la population. On a visité les trois villes qui ont été les plus massacrées depuis les derniers jours de décembre. Et notre investigation a concerné la ville de Tell, où il y a en une seule nuit, donc la nuit du 8 au 9 janvier, il y a eu 6 jeunes tués. Ensuite, Tell, c'est une ville du gouvernorat de Kastrin. En fait, les villes qui ont été l'étincelle de la révolution en 2010, c'était Kastrin, Sidi Bouzid. C'est des villes de l'intérieur du pays. C'est des villes qui sont en opposition totale par rapport aux villes du littoral à tout point de vue. C'est des villes où le chômage est pratiquement le double par rapport aux villes côtières. C'est des villes de centaines de milliers quand même d'habitants où on n'a pas une salle de cinéma, où on n'a pas un théâtre.
Là, je te coupe un peu là, je pense qu'on reprendra
okay.
après.
Dans le débat, en fait, je vous parlerai un peu des résultats.
Voilà. Mais c'était sans doute bien d'expliquer l'historique. Et de...
قطع شعبي مع ترعيننا النور بغلفنا مع الطعفي الظلم يزيد في عيون اليوم نحور
يا شعب يا كبير 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 يا شعب يا ك ישב מהיבן, ישב מהסבא, ישב מהאבים, קרן את חררנה, ובנה לי הרב, יחי השעב, תחי החוריה, תחי התונס אל-חורה, יחי השעב מהאבים.
Vous êtes sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97FM.
Et nous allons maintenant écouter Ourida Chouaki, qui fait partie de l'association Sawa and Fatma and Soumer à Alger, en Algérie. Nous avons utilisé la chanson du mouvement contre le code de la famille, 20 ans Barakat, dont Ourida a fait partie et dont elle parle dans son intervention. Si vous le souhaitez, on vous encourage à aller voir le clip sur Internet. Les paroles sont sous-titrées en français et nous mettrons le lien de la vidéo sur notre site sur radiorageuse.net. Nous avons loupé le tout début de l'enregistrement de la partie d'Ourida Chouaki. Et donc, je vous explique, elle commence son intervention en nous expliquant le nom de l'association, qui est en fait le nom d'une femme algérienne qui est une figure de lutte.
Figure emblématique de la femme battante qui a cassé des tabous. Parce que déjà en 1850, elle a été mariée contre son gré. Elle a... dans les années 1850. Et elle a quitté son mari, donc comme la loi lui interdit de divorcer, mais elle a quitté ce monsieur et elle a vécu avec un autre homme. Et elle a été à la tête d'une armée de 7000 hommes. Elle a tenu tête au général Rondon en 1857. C'est pour dire que les femmes en Algérie, c'est depuis longtemps justement qu'elles étaient au combat. Parce que souvent, nous, les militantes, on nous traite de partie de la France, de pro-français, etc. Parce que demander l'égalité, c'est être pro-français. Et on a voulu choisir un symbole purement algérien pour contredire justement cette idée-là.
Yensa, iklem magfash, lazem nqta lwilan. L'adl ma yeswach fi ghib lmizan. Ya nas ljazayr ghatta w lshams bel gharbal. Nhajikom ya bnat 20 sna bal.
Donc je vais essayer d'être assez brève parce que je vais parler un peu de la situation des femmes et de ce que prévoit un peu le mouvement qui lutte, le mouvement des femmes qui lutte pour l'égalité. La situation des femmes en Algérie...
Tu es enseignante ?
Moi, je suis enseignante, je peux me présenter. Je suis enseignante en physique à l'Université d'Alger, à Babezouar. Et je suis militante féministe. Je passe plus de temps à militer qu'à enseigner. Et ça m'apporte beaucoup. C'est un enrichissement quotidien. Et je vais parler de la situation, le contexte politique d'abord. L'Algérie, elle a d'un côté une image à montrer au niveau international. Je parle de l'État algérien, je ne parle pas du peuple. Et on a la réalité à côté. C'est vrai que les pactes et conventions... comme on parle de la convention CEDAW, qui est contre la convention contre toute l'élimination des discriminations, qui est pour l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes. Elle a été ratifiée avec réserve, mais ratifiée quand même. Il y a les pactes des droits économiques, sociaux et culturels, pour lesquels, c'est vrai, beaucoup de pays musulmans en particulier, en fait, ne prennent pas garde. Pour eux, ça n'a pas d'importance, alors que si nous, on tenait compte de ça... C'est un pacte où, justement, il est inscrit aussi la non-discrimination à l'égard des femmes. Et ces pactes-là sont ratifiés pratiquement sans réserve. Donc on devrait aussi utiliser cela. Ça a été ratifié depuis déjà quelques années. Nous avons un contexte politique où, comme vous le savez, il y a eu l'arrêt du processus électoral, le terrorisme, donc instauration de l'état d'urgence. Et l'état d'urgence a servi... à empêcher toute forme d'expression de l'opposition. Donc les manifestations publiques sont interdites. L'état d'urgence a été levé en 2011, mais les manifestations publiques demeurent non autorisées. Donc il y a l'apparence et ce que l'on a en réalité. Et aussi, par exemple, récemment, pour les élections, on a mis en place un système de quotas. Aux législatives, les femmes se présentent et ils se sont arrangés. Quels que soient les résultats des élections, on s'est retrouvé avec 33% de femmes à l'Assemblée nationale. Bon, on ne sait pas ce que ça va apporter, mais pour l'image, il y a 33% de femmes qui sont présentes à l'Assemblée nationale, alors qu'aux précédentes législatives, il n'y en avait que 7.
En France, hein, en France ils vont pas.
Ça y est, pas en France, ça.
Oui.
Au Maroc, il y en a eu.
Donc, c'est une obligation.
Au début, combien de députés ?
Comment ?
Tu dis, on est passé
de 7% à 33%. C'est quand même une grande avancée. Mais, moi, pour moi, c'est pas vraiment une avancée, parce que ce qui m'intéresse aussi, ce qui nous intéresse, pas que moi, mais ce qui nous intéresse, c'est justement la question, la situation de la femme. Est-ce que les députés vont peser pour que la situation, ne serait-ce que juridique, de la femme s'améliore ? Qu'il y ait des changements de loi. C'est eux qui votent les lois. Et jusqu'à présent, nous avons encore le code de la famille. On a dit que nous, on luttait pour la mise en place de lois civiles égalitaires. L'Algérie, c'est le pays des paradoxes. Nous avons la Constitution. L'article 2 dit que l'islam est religion d'État, c'est vrai. Mais un autre article dit que tous les citoyens, tous les Algériens sont des citoyens égaux sans distinction de sexe. Et c'est vrai qu'en tant qu'individu, j'ai exactement les mêmes droits qu'un homme. Que ce soit au point de vue des salaires, que ce soit pour me déplacer. En tant qu'individu, mais pas en tant que femme mariée, pas en tant que fille, pas en tant que mère. Alors là, je suis sous le code de la famille et là, j'ai un statut de mineur. Pour me marier, quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation, il me faut un tuteur. Les enfants, alors on dit que maintenant la femme et le mari, ils ont des enfants. On parle d'autorité parentale conjointe, mais en réalité, c'est le père qui est tuteur de ses enfants et la mère supplée le père pour une affaire grave et en cas d'absence de celui-ci. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence, même par rapport aux enfants. Et c'est toujours bourré de contradictions. Même si je vais parler du code de la famille, et il y a eu en 2005 des amendements, il y a eu des débats qui sont nés en Algérie. Il y a des associations qui ont dit il faut qu'on soutienne les amendements, c'est une avancée. Enfin, nous, on considère que ce n'est pas une avancée. L'avancée, c'est le code de la nationalité, c'est vrai. Même la réserve de la convention CEDAW a été levée par rapport à ça. C'est-à-dire que la femme transmet un enfant est de nationalité algérienne s'il est de père algérien ou de mère algérienne. En fait, la grande contradiction, c'est que dans le code de la famille, le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est prohibé. Et que donc la femme, quand elle se marie avec un étranger, un Français par exemple, qui n'est pas musulman, ce mariage n'est pas reconnu. Quand elle a des enfants, normalement, si le mariage n'est pas reconnu, l'enfant, c'est de mère célibataire, puisque le mariage n'est pas reconnu. Et les enfants de mère célibataire portent le nom de la mère. Il se trouve que l'enfant qui est né avec un Français porte le nom du père. Là, c'est vrai que ça fait une grosse contradiction, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment les yeux, ils donnent la nationalité à l'enfant, et en fait, ils essayent de régler des problèmes concrets sans rentrer en profondeur. Mais c'est vrai que si on essayait d'approfondir, il y a énormément de contradictions et ils ne s'en sortiraient pas. Et la plus grosse difficulté, c'est l'article 222 du Code qui dit que quand le juge n'arrive pas à trancher, il se rapporte à la charia, donc au droit musulman. Ce qui est quand même pas du tout dans l'intérêt des femmes. Par rapport aux réformettes, les associations se sont mobilisées, etc. D'autres ont soutenu, mais en majorité, nous nous inscrivons tous pour l'égalité. Et ce que nous avons, ce qui unit le mouvement associatif, c'est surtout autour des violences faites aux femmes.
Alors, pour inscrire dans les temps précis, oui. Réforme du code de la nationalité, quelle année?
C'est en 2005. Il y a eu en 84, il y a eu le code de la famille qui a été adopté par l'Assemblée nationale. En 2005, c'est vrai que nous, avant, en 2004, on avait lancé la campagne contre le code de la famille qu'on avait appelé 20 ans Baraquette, 20 ans ça suffit. En 2005, il y a eu des propositions d'amendement. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en juillet 2004, il y a eu les amendements qui ont été proposés et qui sont passés en conseil de gouvernement. On avait déjà réagi par rapport à ça, mais je vais citer un article qui est le tuteur matrimonial. En fait, en juillet 2004, la femme pouvait se marier sans son tuteur. Sauf si elle le désire. Ça, c'était quand même un peu... J'ai dit, en juillet 2004, il y a eu des propositions d'amendements. Et en ce qui concerne le tuteur matrimonial, l'article disait que la femme pouvait se marier. Donc, l'âge du mariage, c'est 18 ans, 19 ans. Elle est majeure. Elle pouvait se marier sans tuteur, sauf si elle le désire. Et les islamistes en ont fait leur cheval de bataille. Parmi tous les amendements, et ils sont allés, ils ont fait du porte-à-porte, ils ont considéré que la femme, puisqu'elle pouvait s'en marier sans son tuteur, c'est qu'elle allait se marier sans la présence de ses parents, qu'elle allait être une fille des rues, etc. Ils ont réussi à mobiliser la population autour de ça, le pouvoir a cédé. Et en février 2005, l'amendement a été proposé que la femme devait se marier, elle devait avoir un tuteur pour se marier, quel que soit son âge, mais qui peut être son père, son frère ou toute personne de son choix. Je vais prendre n'importe qui dans la rue, je le prends, c'est mon tuteur, je ne connais pas, mais il me faut un tuteur pour le principe. Je suis majeure pour choisir un tuteur, mais je me rends mineure parce que j'ai un tuteur. Mais en fait, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est vrai qu'il y a eu le code de la nationalité en même temps qui a été amendé. Et là, que la mère puisse transmettre sa nationalité, on considère que c'est une avancée. Et c'est vrai que ça a réglé beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de couples mixtes. Et ça a réglé surtout des problèmes vis-à-vis de l'international, à mon sens. Et je pense que l'objectif était là, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui se retrouvaient, bon, un enfant, beaucoup de femmes algériennes qui ont épousé des étrangers. Et pour régler ces problèmes, ils ont apporté cet amendement. Et ce qui est étonnant, c'est que les islamistes n'ont pas réagi par rapport à ça. Donc, ils réagissent sur certains points, mais pas pourtant que l'islam, ça se transmet par le père, le mariage se transmet par le père dans la loi musulmane. Donc ici, ça va en contradiction avec la loi musulmane, mais les islamistes n'ont pas réagi du tout. Ils n'ont réagi que sur le tuteur matrimonial. Et en fait, on sent que même... C'est surtout des problèmes de société, c'est une façon d'avoir la main sur la société, et que le pouvoir en place et les islamistes, ils se partagent les rôles. Il y en a qui ont c'est eux qui décident, les questions économiques, etc. Et on laisse la gestion de la société et de la famille aux islamistes. C'est aussi une façon, et ils sont, je pense, en accord autour de toutes ces questions-là. Parce que même le code du travail ou le code du commerce, qui sont des codes civils, les islamistes n'ont jamais réagi par rapport à ça. Et donc, quand on parle d'islamisme et d'islam, etc., si on cherche en profondeur, est-ce que c'est des questions religieuses qui les poussent ou c'est d'autres questions ? Bon, pour aller vite, je vais passer à autre chose. Donc, je parlais des violences. Les femmes victimes de violences, socialement, ça a toujours été un tabou. Souvent, les femmes victimes de violences n'allaient pas dénoncer. C'est vrai que les associations, en mettant en place des centres d'accueil et des centres d'écoute, en particulier téléphoniques, a permis un peu de casser ce tabou. Et les femmes commencent à en parler. Et c'est vrai que on les suit pour les amener à déposer plainte. Il se trouve que la loi algérienne condamne les violences ceux qui sont les agresseurs sont pénalisés, poursuivis et pénalisés, mais il n'y a pas de loi cadre sur les violences conjugales. C'est-à-dire qu'une violence conjugale, c'est comme si c'était une violence qui se passait dans la rue ou autre, au même titre. Et les associations de femmes, en fait, se regroupent et mènent un plaidoyer pour qu'une loi cadre en ce qui concerne les violences conjugales soit mise en place. Voilà, j'ai un peu parlé de tout ça. La décennie noire, vous savez ce que ça a apporté. Et c'est vrai que la situation des femmes juridiques, on en a un peu parlé. La situation économique, elles sont toujours les premières victimes de la crise économique, de la mondialisation. Et si vous, même s'il n'y a pas de loi qui interdise à la femme de travailler, il est vrai que ce serait plus un homme qu'on embaucherait qu'une femme par rapport au logement. Les lois, elles ne sont pas discriminatoires. Tout le monde a droit à un logement. Il y a des logements sociaux qui sont construits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles derrière, mais bon, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Ce n'est pas forcément les plus démunis qui en bénéficient. C'est ceux qui ont de l'argent à mettre chez le maire ou autre pour en bénéficier. Mais les femmes seules, eh ben, on ne leur donne pas de logement. On leur dit, bon, c'est les hommes qui en ont besoin, c'est les couples mariés, etc. Et souvent, eh ben, c'est toujours les femmes qui sont discriminées. Mais pas parce que c'est la loi qui leur interdit, mais c'est des pratiques sociales. C'est très difficile aussi de déposer plainte par rapport à ces questions-là, parce que bon, c'est même pas suivi et puis il n'y a aucune preuve.
Situation ville-campagne, comme elle a pu l'évoquer.
Voilà, justement, je voulais en parler. Alors, dans les villes, peut-être que la situation est un peu plus facile. Dans les campagnes, alors, on a non seulement... les campagnes sont des régions pauvres, tout dépend de la région. Hein. Il y a des régions qui sont comme la Kabylie ou autres, c'est des régions montagneuses, rurales, mais où il n'y a pas grand-chose. C'est des régions très, très pauvres, où... Et la femme, elle est non seulement en situation de précarité, mais elle subit aussi des discriminations. Je vais parler de la Kabylie parce que pour moi, c'est une région qui est un peu particulière. Et qui... c'est la seule région d'Algérie où, même aux élections, l'islamisme ne passe pas. C'est la région d'Algérie où il y a le moins de foulards. Dans les villages, il n'y a pas de filles en foulard. On peut dire que être islamiste, c'est mal vu. Mais c'est la région d'Algérie la plus conservatrice. Et on a tendance à dire le contraire. Et eux, les gens, moi je suis de Kabylie, donc je sais ce que je dis. Mais souvent ils te disent, nous on est modernes, nous on est démocrates, parce que nous on n'est pas islamistes. Mais c'est pas vrai, c'est une région conservatrice où même la France, à l'époque de la colonisation, où il y avait le code pour les citoyens français... Il y avait le code musulman pour les Algériens. Et pour la Kabylie, il y avait le code coutumier. Et le code coutumier, ça veut dire que la femme n'a pas droit à l'héritage. La femme kabyle, elle subit plus de discrimination qu'ailleurs. Donc ça aussi, c'est bon à souligner. On mène un combat même en Kabylie. Et c'est vrai que ce soit la Kabylie ou ailleurs, les femmes en zone rurale, en plus des discriminations qu'elles subissent, elles sont en situation économique de pauvreté. Et nous, pour aller parler d'égalité à des femmes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge, qui dépendent de leur père, de leur mari ou de leur frère, ça devient très difficile. Donc faire un travail de proximité, et ça c'est les associations qui sont arrivées à cette conclusion, pour améliorer la situation économique des femmes. Et c'est vrai que là, on a besoin de trouver des financements pour mettre en place des projets générateurs de revenus pour les femmes en zone rurale, mais on fait en cible essentiellement les femmes, pour les rendre autonomes et créer un climat de confiance pour pouvoir les aborder et parler de ces questions avec elles. Parce que ça aussi, c'est difficile. Parce qu'on a tendance, et ça, on l'a remarqué pas seulement avec les femmes en zone rurale, ou les femmes en général, mais même avec les jeunes, on avait un discours, on était au départ, et ça je constate en tant que militante, hein, on avait le discours féministe des années 70, mais c'est vrai qu'il ne passe pas. On a affaire à une population qui ne nous comprend pas, qui ne nous écoute pas. De quelle manière allons-nous aborder la question pour pouvoir faire un échange? Et c'est vrai qu'on constate aussi que nous avons une jeunesse Et c'est ça qui me rassure un peu, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui s'organisent entre eux, qui se mobilisent sous d'autres formes. C'est pas forcément sous la question féministe, mais la question de l'égalité est une question transversale. Et travailler avec ces jeunes, justement, ça non seulement ça nous a permis d'avancer, mais aussi de faire passer notre message à travers eux. On a eu on n'a pas la chance d'avoir un local, on en a eu un, ça fait quelques années. Donc, puisqu'on a un local, on l'a ouvert à tous les jeunes des réseaux sociaux, pour se réunir, organiser des activités, viennent chez nous. Donc, en fait, on s'est créé un groupe et toutes nos questions sont reprises et transmises. Donc, on considère justement qu'il y a quelque part ici une avancée. C'est très faible, mais ça nous permet d'avancer. Il y a aussi un autre constat que je voudrais faire, c'est par rapport à l'éducation. En Algérie, l'école, c'est vrai que on a comme décision, et ça c'est très beau dans la théorie, scolarisation totale, l'école pour tous. Ils ont construit énormément d'écoles. L'école est gratuite, elle est obligatoire. Elle est obligatoire jusqu'à 17 ans. Elle est ouverte à tous. Mais l'école, ce que l'on apprend à l'école, ça c'est autre chose. Donc l'éducation citoyenne est un manque dans l'école algérienne. Que ce soit même dans les programmes ou même pas les programmes, mais même les enseignants. Donc nous faisons ce travail d'éducation citoyenne avec les enfants des collèges et des écoles, autant que nous pouvons. Hein. Et si l'islamisme est en progression, c'est aussi l'école où l'on enseigne l'éducation religieuse, où les enseignants sont eux-mêmes des islamistes qui transmettent ces valeurs aux enfants. Parce qu'il y a la famille, il y a la rue, il y a l'école. Donc s'il n'y a pas un endroit où ils parlent de citoyenneté, d'égalité, il n'y a pas d'espace. Les seuls espaces qu'ils ont, c'est la rue et la mosquée. On a le vendredi férié, tous les enfants vont à la mosquée. On offre aux islamistes une tribune pour pouvoir embrigader les gens. Et les enfants, ils n'ont pas où aller, ils vont à la mosquée le vendredi.
Le foot. Hmm?
Il y a le foot aussi. C'est vrai qu'il y a le foot. Mais le vendredi, à partir de 1h, il n'y a ni foot ni rien, il y a la mosquée. La ville est fermée. Et c'est vrai que c'est quand même, à mon sens, un danger.
On n'a pas compris. Est-ce que vous voulez reprendre?
Comment vous n'avez pas compris? J'ai dit, c'est vrai que le foot rassemble les jeunes, parce qu'elle m'a parlé du foot. C'est vrai que ça, c'est important. Mais j'ai dit que le seul espace qu'on ouvrait aux enfants, bien qu'il y ait des changements, je vais en parler tout de suite, c'est la mosquée. Le vendredi, en particulier, c'est ça, est un jour férié. Les enfants ne vont pas à l'école. Tout est fermé à 1h, il n'y a rien. Il n'y a que les mosquées. Donc, ils vont à la mosquée. Et là, ça peut embrigader aussi les enfants. Et ils n'avaient pas d'autre espace à part le foot. Et c'est dehors, ils jouent au foot l'après-midi. Mais en fait, ils n'avaient pas d'autre espace pour aller se dépenser et autre chose que la mosquée. Bon, maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a eu beaucoup de piscines qui se sont ouvertes, il y a des salles de jeu, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Ça coûte de l'argent, les gens n'ont pas les moyens de se payer ça. Il est vrai que là, ils sont en train, parce que le terrorisme, à l'époque du terrorisme, mais il n'y a pas que le terrorisme, hein, le pouvoir aussi, ils ont détruit le cinéma, toute expression théâtrale, etc. On s'est retrouvé complètement vide de tout. Et bon, maintenant, ils sont en train de revenir. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être un peu compris. Donc, ils sont en train de réouvrir des salles de cinéma. Ils sont en train de favoriser tous les jeunes créateurs, aussi bien en théâtre qu'en cinéma, etc. Il y a beaucoup de festivals qui sont mis en place dans différentes villes, que ce soit autour du théâtre, du cinéma, de la poésie, etc. Donc, là, quand même, on voit qu'il y a une petite avancée. Mais quand tout était fermé et on n'avait que la mosquée, on ne pouvait pas avoir autre chose que des islamistes dans la rue. C'est assez... bon, c'est vrai que le foot, on ne peut pas le supprimer, hein, mais c'était la seule distraction.
On t'arrête là
Je pense que je vais arrêter là.
<t'en>
Bonsoir, alors vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM avec Dégenré et ce soir l'émission nous permet d'écouter les interventions de trois femmes qui viennent de Tunisie, d'Algérie et du Maroc et qui sont venues à Grenoble en novembre dans le cadre d'une table ronde pour nous parler de leur lutte.
Nous allons écouter l'intervention de Souad Guenoun, qui est une architecte, photographe et documentariste marocaine. Et elle témoigne des réalités sociales du Maroc, notamment autour des luttes de femmes. Et dans l'intervention que nous allons écouter, elle nous parle des luttes dans le village de Ifni, dont elle a tiré un documentaire intitulé « Sidi Ifni, samedi noir ». Et vous pouvez trouver les films de Souad Guenoun sur son site internet « Diyad Art et Développement ». Elle milite avec Attaque Maroc et le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Pour situer le sujet de son intervention, on peut dire que le Maroc est un régime monarchiste. Ça veut dire qu'on peut pas, on n'a pas la possibilité de le faire changer par les urnes. C'est un pouvoir qui se réclame donc d'ordre divin, spirituel. La famille royale marocaine, c'est la première fortune du Maroc. Elle s'est accaparée la plupart des richesses du pays en termes agricoles, commerciales, en termes d'investissements bancaires, financiers, etc. Et elle muselle toute la société marocaine. Dans son intervention, on va entendre le terme de merzen, qui signifie pouvoir central marocain. Ce pouvoir est composé du roi, de sa famille, de ses proches et de sa cour. Et c'est contre le merzen que s'élève aujourd'hui une grande colère du peuple marocain. Souad Guenoun, elle va faire référence aussi aux années de plomb. Et c'est comme ça qu'on appelle les années de règne autocratique et brutal du roi Hassan II, où les opposants du régime étaient envoyés en prison, au bagne, et où la population était terrorisée. Même chez soi, on n'osait pas prononcer le nom du roi du Maroc. Donc vous allez écouter l'intervention maintenant.
Nous avons évidemment un islamisme plus ou moins fort quand ça arrange les uns et les autres. En ce moment, on est en train de nous sortir des histoires de terrorisme sous prétexte de l'Al-Qaïda qui ressort, etc., qui joue un rôle de frein sur nos mouvements et sur nos luttes et sur la pensée et l'ouverture de l'esprit. Et on se retrouve à nous faire discuter éternellement de questions qui nous ramènent au passé, alors que je pense que nous sommes dans une situation nouvelle, une ouverture qui ne concerne pas que le Maghreb, qui est mondial. L'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, et on peut étendre, c'est que la même situation a créé les mêmes effets. C'est-à-dire qu'à partir des années fin 80, on a eu, et je vous épargne l'analyse économiste, ce qu'on appelait l'ajustement structurel. Il y a eu des révoltes dans les années 80 en Algérie, en Tunisie et au Maroc, tout simplement parce que le prix du pain avait augmenté. Et il y a eu des révoltes qui ont provoqué les mêmes réactions, la même répression populaire, le même démantèlement dans les structures, si elles existaient, syndicales, politiques et tout, la répression qui s'est ouverte, la fermeture dans les têtes et dans les esprits, dans la parole, et un retour sur des années noires vécues plus ou moins différemment, mais c'est pareil. Donc le FMI, la Banque mondiale, etc., ont pris d'assaut ces pays-là, et c'est eux qui nous gouvernent. Et ils ont mis à la tête de nos gouvernements, qu'ils soient un monarque, qu'ils soient un président librement, plus ou moins librement, avec la corruption, etc., élu démocratiquement, entre guillemets, des gens qui sont des managers. Ils managent nos pays comme ils managent leur société. Dans le cas que j'ai cité du Maroc, c'est qu'on a un roi prédateur. Voilà en gros. Ces répercussions sur les conditions des femmes. Moi, je dis qu'on est dans une ère nouvelle ouverte qui nous interpelle pour aller vers une ouverture dans la réflexion, comprendre le passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Et comme tu disais, Soubien, il y a une nouvelle génération qui rentre dans les luttes. Et c'est à ce titre-là que j'aimerais plus insister. Parce que, bon, il se trouve que vivant au Maroc et ayant comme outil la vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir approcher, de prendre la parole de différents secteurs de lutte et dans lesquels les femmes jouent un rôle très important. Parce que ces femmes-là, vous ne les entendrez pas dans les radios, dans les médias. Elles ne seront pas invitées ici en France, parce que tout simplement elles n'auront jamais la possibilité d'avoir un visa pour venir, et même si elles avaient, encore moins l'argent pour pouvoir se présenter. Des luttes extraordinaires. C'est des femmes nous surprennent parce qu'elles ont réagi dans des endroits où on ne les attendait pas. Je donne pour exemple une lutte que moi, y compris dans ATTAC, dans l'association où je suis et dans le réseau CADT, où nous travaillons pour l'annulation de la dette, il a fallu batailler dedans pour qu'on comprenne que les femmes qui ont lancé un mouvement qui s'appelle les femmes contre les microcrédits ont posé du doigt sur quelque chose que ni les intellectuels, ni les économistes, ni les gens qui sont porteurs de questions aussi fines que ça n'ont compris qu'il fallait les soutenir. Or, à l'heure actuelle, ce mouvement est parti de femmes qui se sont retrouvées sous les pressions de la mondialisation, de l'ouverture au crédit et de petits crédits, des organismes de microcrédit subventionnés souvent par la Banque mondiale, par la communauté européenne, par des organismes financiers. Ils se sont dit, tiens, bon quoi, on va aller dans des régions complètement perdues, dans les montagnes perdues. Les femmes ne savent ni lire ni écrire, elles sont totalement analphabètes, elles n'ont pas d'hôpital pour se soigner. Elles vont, si on va leur donner des petits crédits, ben ça va certainement que ça va, elles vont le prendre, et puis à partir de là, ils développent parallèlement les fameuses associations de la société civile qui viennent. Oui, on va vous apporter, si vous faites de l'argan, et ben on va vous faire des petites coopératives. Si vous faites des si, on va vous apprendre si. Les exploitent doublement, et pour leur dire, bon ben voilà, si vous avez une petite chèvre, et ben écoutez madame, c'est rien, avec 100 dirhams, et ben vous aurez une deuxième petite chèvre, et puis c'est rien, 200 dirhams, vous pouvez rembourser tant que vous voulez, ça vous coûtera rien, et vous pourrez reproduire plus plus, etc. Les femmes ne sachant ni lire ni écrire sont montrées, rentrées dans le créneau, se sont endettées. Au bout d'un moment, elles ont signé des contrats qui sont un pur vol. Mais il faut le dire en tant que tel. La Banque mondiale peut... il faut dénoncer ça. Et se sont retrouvées, celle qui avait une chèvre, elle n'avait plus rien. Celle qui avait un lopin de terre, c'était fini. Et jetées dans la prostitution... Vraiment, dans la prostitution, il n'y avait rien. Des familles démembrées, démantelées. Et puis, elles se sont rendues compte la peur d'être dénudées. Un jour, elles se sont rencontrées, elles se sont parlé entre elles. Tiens, toi aussi, ben moi aussi, et toi aussi, moi aussi. Et elles se sont assemblées. Et aujourd'hui, ça touche des femmes qui sont dans des villages qui sont connus juste par le tourisme. C'est-à-dire les gens qui connaissent le Maroc à travers ses palmiers, Ouarzazate, Qlaït Mgouna, là où on va faire des randonnées et tout, et ben c'est dans ces villages reculés que sont les victimes. Et c'est de là qu'elles se sont organisées, sinon auto-organisées, et elles mènent une campagne exemplaire à se défendre toutes seules, sans avocat, sans soutien de la militant politique, sans personne. Et elles ont appris à se défendre. Et actuellement, je parle d'elles parce qu'elles sont en procès. Leur procès, je pense que c'est le mois prochain, je pourrais vous donner plus en détail, qui est à chaque fois reporté. À chaque fois, elles se rassemblent pour venir de tous ces villages qui, à pied, qui elles s'organisent, et elles se retrouvent à occuper le tribunal de Ouarzazate. Et Ouarzazate, pour vous dire, c'est qui était la capitale du tourisme, aujourd'hui est une ville complètement ruinée. Les hôtels sont fermés, tous les emplois qui ont été créés parce qu'on voulait un tourisme qui allait apporter de la richesse n'a fait qu'appauvrir la ville, parce que la crise mondiale et la crise économique fait que on a misé sur l'Europe pour venir voir nos villes, faire du tourisme et venir, et ben, vous n'avez plus beaucoup d'argent à investir, et ces hôtels sont fermés. Donc le peu de choses qui ont été investies, les gens sont au chômage et les femmes luttent contre le mur au microcrédit. Je voudrais donner volontairement cette lutte symbolique. Il y en a tant d'autres qu'on n'arrêterait pas. Se passe la même chose au niveau de l'agriculture, et ce que je constate, c'est que les luttes dans les villes et les villages les plus éloignés, je pense, à mon point de vue, sont les plus avancées que dans les grandes villes. Pourquoi ? Et je pose la question parce que dans les villes, les grandes villes, c'est là qu'il y a les associations, le plus de la société civile, les médias les plus puissants qui tournent la tête aux gens, les partis politiques qui n'arrêtent pas de se taper dessus entre gauche, droite, machin, et le Marseille n'arrête pas d'en créer, d'en inventer tous les jours. C'est là qu'il y a l'intelligentsia qui a été complètement privatisée, parce que chez nous, nous n'avons le peu d'enseignement public qui avait est en train d'être bouffé pour être remplacé par des écoles privées qui coûtent très cher, de l'école primaire jusqu'à l'université. Et puis nous avons des profs qui ont lâché complètement parce qu'il faut qu'ils fassent des chiffres et des réponses, fassent des recherches. Donc ils ont oublié tout le rôle social que joue l'université. Donc c'est le démantèlement qui a touché les structures, et autant de la santé que de l'éducation que de l'enseignement. Déjà, on est en recul par rapport à vous, mais là je crois qu'on est en train de s'égaliser dans notre misère et notre recul en arrière. Peut-être qu'on va vraiment aller vers un front ensemble à travers la question des femmes.
يا من وتولي كتاب ويا توعدني.
on est tous logés à la même enseigne. C'est une autre réflexion qu'il faut nous avoir. C'est d'autres luttes qu'il faut mener. Et elles sont en train de se faire. Elles se passent en Espagne avec les indignés. Elles se passent en France avec le mouvement que vous avez eu d'occupation. Elles se passent avec ce mouvement du 20 février que nous avons au Maroc, qui est investi par des strates de génération qui va de ceux qui ont été dans les années de plomb, pour certains, jusqu'à des jeunes qui sont des lycéens. À l'heure actuelle, malgré la répression qui touche ce mouvement, le fer de lance, c'est des lycéens. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire, parce que le mouvement des lycéens, il y a longtemps qu'il a été cassé, et aujourd'hui, on voit des jeunes, et notamment des filles, qui mènent, mais elles sont à l'avant-garde de ces luttes-là. Ça nous ramène à ce mouvement du 20 février, à la foulée de la révolution tunisienne, merci d'avoir chassé Ben Ali, et de l'Égypte, merci pour vous tous. On ne comprend pas pourquoi vous, en Algérie, ça ne sort pas encore, mais ça va venir. Je pense que ça ne fait que commencer. C'est que quand il y a eu les luttes à Gafsa, on a été déjà branchés avec la Tunisie à travers une lutte qui s'appelait Ifni chez nous, et qui était une question nouvelle qui s'est posée par la lutte qu'ont menée nos amis de Ifni, parce que c'est une ville qui était comme exactement la région de Gafsa, et en même moment, une ville qui était laissée à l'abandon. Et ce qui est fantastique chez les diplômés chômeurs chez nous, c'est qu'ils ont du temps, tout le temps de leur chômage, il est consacré à lutter. Et donc, ils se sont rendus compte, ces diplômés chômeurs de Ifni, qui s'intéressent aussi bien à demander de l'emploi qu'ils n'auront pas, puisqu'on invente, on ne crée pas d'emploi, à la question de la santé, à la question sociale. Et donc, ils ont élargi leur champ de lutte. Ils sont aussi dans les droits de l'homme, ils sont aussi dans l'association ATTAC, ils sont dans un tas de trucs. Et ils n'ont rien d'autre à faire que de se connecter à Internet et de lire ce qui se passe. Donc, il y a une connexion intergalactique qui fait que c'est des gens dans une région complètement marginalisée, les plus en avance au niveau de ce qui se passe au niveau mondial. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que cette ville est pauvre, alors qu'ils ont un port qui est accaparé par la mafia de la marine, qui est tenue par des généraux, pour ceux qui ne savent pas chez nous. C'est eux qui ont le droit de pêcher en haute mer et de rafler toutes les poissons et qui le vendent à qui veulent, au prix qu'ils vendent, sans que ça revienne, qu'il y ait une répercussion de ces richesses sur la population et sur la ville. Donc ils se sont dit, on va bloquer le port. Et une fois qu'ils ont bloqué le port, ils avaient l'habitude qu'on leur envoie la matraque, on les arrête, etc., on les lâche. Eh ben non, la ville de Ifni a été quadrillée par toutes sortes de forces de répression. Et Ifni a connu son samedi noir, qui a été un truc horrible. Et ils se sont donc rendus compte que ce port d'Ifni, puisqu'ils l'ont bloqué, ça a apporté autant de répression, c'est que... Et ils ramenaient beaucoup d'argent. Bon, ils se disaient un peu, mais pas au point qu'ils ont découvert, parce qu'au bout d'une semaine d'occupation, les grands chalutiers étaient bloqués, les sardines ne se vendaient plus, et on est venu leur dire, ah ben si vous voulez 1 million, on vous le donne, mais laissez passer les trucs, si vous voulez 2 millions, alors c'était la montée aux enchères. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que le port, le petit port d'Ifni, avec des infrastructures laissées par la colonisation espagnole qui n'a rien apporté de plus, rapportait des milliards et des milliards d'euros par an. Qui a été porté par là. Alors ça, cette fois, c'était plus que les jeunes, les mouvements, les diplômés chômeurs, c'était toute la population d'Ifni, rejoint par les familles, rejoint par les marins et les pêcheurs d'Ifni, ont commencé à dire, mais nous, on veut que les richesses nous reviennent et on profite de la richesse. Que les richesses soient réinvesties dans notre ville. Donc c'était une lutte nouvelle avec des revendications nouvelles, une prise de conscience nouvelle. Et c'est pour ça que quand il y a eu Ben Ali et ce qui s'est passé en Tunisie, ça a été énormément suivi partout au Maroc. Et je me rappelle qu'on avait essayé de faire les premiers sittings à Rabat devant le consulat qui a été réprimé, on ne nous a pas laissé. Mais c'était vraiment quelques personnes. C'était la crème de ce qui restait des droits de l'homme, de tout ça. Ces choses-là. On a fait des sittings réprimés et puis on voyait que la lutte montait et puis tout le monde était à ce moment-là capté par Jazeera, transmettait tout. Et quand Ben Ali est tombé et on se disait mais on va sortir, mais non, c'était, je me rappelle, Casa était une ville déserte et tout le monde était effrayé, tout le monde était devant les télés mais personne dans la rue. N'empêche que quelques jours après, je me rappelle à Rabat, il y a eu à l'initiative de jeunes, on a fait un sitting et on a créé de Gafsa à Ifni, après de Rabat au Caire, etc. Et on n'était encore pas plus que 50. Et à se dire, ça va partir aussi. On n'a pas été réprimé cette fois. Et quelques jours après, il y a eu un appel qui est passé par Facebook et par les réseaux sociaux qui appelait à faire un rassemblement, un sitting dans toutes les villes le 20 février. Et c'était en 2011 et pas 2012. Le 20 février en 2011, lancé par des gens qui étaient des journalistes, des militants associatifs et tout, et pas vraiment des têtes connues. En se disant, bon, on va être comme d'habitude, les 15 pelés, 30 tendus, si on arrive à être 50, c'est déjà pas mal. Et très tôt le matin, on s'attendait à la matra comme d'habitude. Et puis, on a été étonnés. D'abord, moi, j'étais à Casa. On est sorti du local où on a fabriqué toutes sortes de panneaux. Alors là, il y a eu une libération. On demandait tout. La nationalisation qui demandait la nationalisation de trucs, le retour de la privatisation de l'eau, de Orlidec, contre le Marzen, Abba, le despotisme. Enfin, c'était une liberté dingue. Alors que tout le monde a voulu s'exprimer à sa manière et on est sorti chacun avec des panneaux comme ça et on s'est retrouvé sur la place là, la place des pigeons qu'on l'appelle là, à Casablanca devant la préfecture Et puis, on est sortis en se disant, bon, on nous laissera, on ne nous laissera pas. Il y avait déjà des gens, il était 9h, je me rappelle, ce matin-là, des gens sur la place, rejoints de part et d'autre, et tout le monde arrivait de tous les côtés. Et il pleuvait, et au bout d'un moment, la place se remplissait, et tout le monde était étonné qu'elle se remplisse. Et ça a duré toute la journée. On ne voulait plus se quitter. Ça a tourné ce petit sitting en énorme rassemblement. Il y a eu des gens qui voulaient qu'on garde le sitting comme à Place Tahrir. Et puis après, on a eu des nouvelles de ce qui se passait dans les autres villes. Et on a appris que ce même jour, dans plus de 80 villes, ils se sont rassemblés les gens de la même manière. Et qu'à des endroits, ils ont attaqué comme à Ifni, dans le Rif. Dans le Rif, ça a été là que ça a été le plus massacré. Parce que là, il y a eu des gens qui sont sortis de village en village. Pour ceux qui connaissent le Rif, c'est des villages distants de 10 à 15 kilomètres, toujours en lutte, mais personne n'en parlait, et qui ont voulu rejoindre le Hosima, la capitale du Rif, en fait. Et puis là, ils ont commencé à lire, c'est les enfants de Abdelkrim Khattabi, qui ont dit, voilà, c'est tout de suite la République du Rif, avec des portraits de Abdelkrim. Et puis ils y croyaient comme dur comme fer, sauf que l'armée était déjà là. Et ça a été massacré. C'est la région où il y a eu 5 morts, qu'on a déguisés en gens que, soi-disant, ils voulaient rentrer, casser une banque et voler. Et on a dit que c'était des voleurs qui ont été calcinés. Et c'était les premiers morts qui sont tombés. Et jusque-là, on continue à vouloir savoir quelle est la vérité. Parce que les familles disent que c'est pas leurs enfants. On ne sait pas si c'est les corps, on ne sait pas si c'est eux. Bref, ça a été déjà... La mort était au premier jour. Dans la région d'Ifni, et ça c'était l'extrême sud à l'extrême nord, la population d'Ifni y a tellement cru qu'elle a décidé de faire une longue marche vers Agadir pour rejoindre la région. Ils sont sortis de Ifni pour rejoindre Agadir et là ils ont été bloqués. Il y a eu des arrestations, de la répression. Dans les régions comme l'Aqsar, il y a eu des violences. Et il y a eu une fille, là, vous avez Fadwa Laroui, qui a été arrêtée, torturée, dit-on, dans un commissariat. Et puis, elle est morte dessus. C'était la première femme qui a subi, à travers la répression, la violence, on dit un viol, et elle est morte. Donc voilà, le bilan était dur, mais au lieu d'arrêter le mouvement, au contraire, ça a été une goutte d'eau qui a renforcé davantage le mouvement. Les gens ne voulaient plus quitter la rue. Tout le monde parlait de refaire les places Tahrir. Seulement, on n'a pas réussi, au bout d'un an de lutte acharnée, à occuper la rue. Et en ce moment, on est dans un retour en arrière parce que, entre autres, le Maroc jouit d'une telle image de dire « Mais voilà, le Maroc, c'est un pays spécifique, c'est un pays de démocratie, c'est un pays où il y a une constitution qui a été donnée, bien qu'on aurait longtemps à discuter de quelle constitution on nous a donnée, qui nous a mis un gouvernement islamiste qui ne sert à rien, avec un palais qui a tous les pouvoirs. Et cette constitution a été approuvée par une énorme palette d'intelligentsia, et donc il y a eu une rupture entre les politiques, l'intelligentsia et la rue qui descend, parce que, y compris le mouvement des femmes de la société civile, ont approuvé cette forme de la constitution, et là, ils sont bien emmerdés. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, ils vont nous parler des islamistes et dire, voilà, il faut changer le gouvernement des barbus, mais celui que, dans un État, est-ce que c'est ça qui est le fondement, quand on sait que déjà, le palais a déjà un gouvernement de fait qui gouverne tout. Donc il y a des luttes qui sont très importantes à l'heure actuelle, et je dis qu'en ce moment, pour arrêter, il est très important de s'unir et d'être solidaire plus que jamais, parce que la lutte ne fait que commencer, à mon avis. On est dans une phase répressive, on a des tas de gens qui sont en détention, et malheureusement, les médias sont tellement tournés vers le massacre qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Mali. Les gens qui luttent au Maroc, ça apparaît comme dérisoire de dire que bon, bah, y a des gens qui sont arrêtés, mais quand même, il y en a qui ont pris des dizaines d'années, d'autres 4 ans. Il y a des artistes comme des rappeurs et des jeunes. Et puis, la particularité qu'on a, c'est que nos militants, on ne veut pas dire que c'est des détenus d'opinion. On veut nous présenter comme des criminels, des drogués, des fumeurs de shit, des mangeurs de ramadan, des femmes libertines, des choses comme ça, qui fait qu'ils veulent séparer la population entre ceux qui sont bien et ceux qui sont mal. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce qu'ils sont en train de vouloir diviser la population dans son intégralité, entre les mécréants et pas les mécréants, entre ceux qui fument et ceux qui mangent, les mangeurs de ramadan, entre ceux qui sont... Voilà. Et la lutte aujourd'hui, c'est aussi de rassembler le plus largement ses forces pour dire qu'on est dans une planète qui va mal et il est de notre ressort d'apporter d'autres alternatives et d'autres luttes en commun.
Vous êtes sur Dégenré, l'émission pour déranger, et nous venons d'écouter une intervention de Swat Guenoun. Alors, si vous avez entendu la référence à Abdelkrim El-Khattabi, elle parle d'un résistant de la région du Rif et qui a lutté contre le colonialisme et donc pour l'indépendance du Maroc, mais il a aussi lutté contre le roi et a voulu créer la République indépendante du Rif. Du coup, c'est à ça qu'elle fait référence quand elle parle de ses descendants qui ont pensé à ça au moment du 20 février. Et elle utilise aussi le terme « mangeur de ramadan ». Alors c'est un terme assez récent parce que cet été 2012, au Maroc, des rendez-vous se sont donnés sur les réseaux sociaux, par Facebook par exemple, pour aller faire des provocations publiques, d'aller manger en toute visibilité pendant le mois de ramadan dans les parcs, organiser des pique-niques géants, des petits pique-niques publics dans les jardins. Et il faut savoir que c'est la première fois que cette provocation existe et c'est extrêmement insultant pour la plupart des Marocains qui, lorsqu'ils décident de manger pendant le ramadan, se cachent chez eux. Et donc les personnes qui ont fait ça se sont exposées à vraiment... du lynchage de la part de la population, se sont fait arrêter, etc. Pour terminer, si vous êtes intéressé par le mouvement du 20 février, vous pouvez lire et écouter les interventions et les écrits de Zineb El-Razaoui. C'est une journaliste activiste qui tient un blog radical et très critique sur la politique au Maroc. Elle est actuellement en Belgique parce qu'elle est poursuivie en justice au Maroc. Et donc, j'aime beaucoup la manière qu'elle a de parler de la situation au Maroc.
On mettra le lien aussi vers son blog sur le site radiorageuse.net, qui est le site où on va pouvoir trouver toutes les émissions de Dégenré et également d'autres émissions féministes, puisque Radio Rageuse, c'est une nébuleuse d'émissions féministes et transpédéguines. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce site pour voir un peu toutes les émissions hyper intéressantes et diverses et variées de francophones. Voilà, donc on pourra mettre le lien vers ce blog de cette activiste et puis de la vidéo dont je parlais au début de l'émission. Donc voilà, notre émission se termine. Tu avais encore un truc à dire, peut-être parler de la musique.
Oui, alors nous allons écouter...
Non, excuse-moi, pardon, de la musique qui a illustré ton montage de Swatini.
C'était une musique de Najat Attabou, qui est une chanteuse marocaine actuelle, qui chante en berbère et en marocain. Et donc, la chanson qu'on va écouter pour clore l'émission, c'est...
On peut faire les infos.
C'est une chanson qui s'appelle « J'en ai marre » et qui bouscule la morale puritaine.
D'accord. Et donc, avant de vous faire écouter du coup cette chanson-là, deux petites minutes d'information pour clore donc cette émission où nous avons entendu trois militantes, donc Fatia Shahari, Swat Guenoun et Ourida Chouaki, qui nous parlaient des luttes de femmes au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Alors, changement de sujet, rien à voir. Retour en France et aux manifestations contre l'homophobie, où nous vous invitons très fortement à y aller, que vous soyez hétérosexuel ou lesbienne ou autre. Ça regarde tout le monde. Et donc, vraiment, plus nombreux et nombreuses on sera, et mieux nous pourrons dire aux réactionnaires de tout poil qu'on n'est pas d'accord. Pour ce déferlement d'homophobie qu'on a pu entendre largement relayé par les médias d'ailleurs ces derniers mois autour de cette loi sur le mariage pour tous et toutes, donc le mariage gay comme on dit. Donc, de plusieurs manifestations à Grenoble à 14h samedi 15 décembre. Rendez-vous place Notre-Dame pour cette manifestation contre l'homophobie. Si vous êtes plus proche ou si vous êtes lyonnaise, eh bien il y a exactement le même rendez-vous à Lyon samedi à 14h. Et dimanche, donc le dimanche 16, c'est la manifestation nationale à Paris. Voilà. Donc soyons nombreuses à grossir les rangs contre l'homophobie. Et ne nous laissons pas faire. On vous quitte pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle émission Dégenrée. Et on vous laisse écouter la suite sur Radio Kaléidoscope. Bonne soirée.
جيت واخا جيت جن مار.